Radio Okapi. Okapi.
Les titres ce matin à la CPI, la chambre préliminaire 2 rejette l'appel du procureur demandant à l'accusation de sursoir à l'exécution de la mise en liberté provisoire de 4 proches de Jean-Pierre Bemba. En clair, cette liberté sera effective dès que le greffe aura pris les mesures nécessaires. Au Nord Kivu, la société civile a soumis hier à l'envoyé spécial Saïd Djinit ses inquiétudes sur les défis à relever au plan judiciaire et sécuritaire, surtout en ce moment où des groupes armés sèment terreur et désolation à Beni. Et puis devant les députés nationaux, le numéro 1 de la SNEL a affirmé hier à Kinshasa que l'actuel déficit énergétique est lié à la croissance démographique et au boom immobilier. En tout cas, les élus qui ne l'entendent pas de cette oreille fustigent plutôt une faiblesse managériale. Bonjour à tous. Un rebondissement dans l'affaire Jean-Pierre Bemba Gombo Alaé. La chambre préliminaire 2 a rejeté mercredi l'appel du procureur de la CPI demandant à l'accusation de sursoir à l'exécution de la mise en liberté provisoire de 4 suspects. La chambre d'appel refuse donc d'accorder un effet suspensif à l'appel de l'accusation contre cette mise en liberté provisoire. L'assistant chargé de la sensibilisation de la CPI en RDC affirme que la liberté d'Aimé Kilolo, Jean-Jacques Mangenda, Fidel Babala et Narcisse Arido sera mise en œuvre dès que le greffe de la CPI aura pris les mesures nécessaires. Patrick Tchiboui est au micro de Michel Kefinangoy.
Le procureur de la Cour pénale internationale avait effectivement interjeté appel contre la décision de mise en liberté provisoire rendue par le juge unique de la chambre préliminaire 2. Le procureur a utilisé deux voies. Il a premièrement interjeté cet appel devant la chambre d'appel en demandant d'accorder à cet appel un effet suspensif. Et de l'autre côté, le procureur s'est également adressé par une motion urgente auprès de la chambre préliminaire, donc du juge qui avait rendu la décision, pour lui demander de suspendre à titre provisoire la mise en œuvre de sa décision qu'il avait rendu de mise en liberté provisoire. La chambre préliminaire 2 a rejeté cette requête en disant que la formalité voudrait que la demande d'effet suspensif soit adressée à la chambre d'appel. Et la chambre d'appel par la suite a également rejeté la requête d'effet suspensif, ce qui voudrait dire que la décision de mise en liberté provisoire sera donc mise en œuvre par le greffier de la Cour pénale internationale qui prend les mesures nécessaires pour exécuter ces décisions.
Dans le même univers, le gouvernement recommande vivement aux procureurs généraux d'Afrique à œuvrer pour une justice impartiale au service de la population. Recommandation faite mercredi à Kinshasa par le Premier ministre à l'ouverture de la 9e session annuelle de l'Assemblée générale de l'Association des procureurs du continent. Selon Augustin Matata Ponyo, l'APA poursuit des objectifs qui sont en phase avec les aspirations du peuple congolais engagé dans la réforme de son système judiciaire. Le compte-rendu de Jeff Ngoy.
Pour le Premier ministre, le gouvernement congolais a tant tiré de ses assises des dividendes sûrs pour l'édification d'une justice indépendante. En RDC, dit-il, le ministère de la Justice applique une feuille de route devant aboutir à la mise en place d'une nouvelle architecture juridictionnelle et à garantir cette indépendance.
Des crimes, des genres nouveaux, ne permettent plus aux organes judiciaires nationaux d'y faire face seuls, sans les concours des autres États. Le gouvernement vous félicite pour cette prise de conscience. Il est persuadé que vous parviendrez à identifier les moyens le plus adéquats pour y parvenir.
Vice-président de l'APA, le PGR congolais Flori Kabange, explique les thématiques de la session.
L'unification des mécanismes de poursuite et coopération internationale formelle et informelle des affaires criminelles concernant le trafic frauduleux des espèces de la faune et braconnage, le commerce illicite des ressources naturelles, les crimes émergents.
Et les moyens pour y parvenir consistent à définir une formule commune permettant l'extradition d'un criminel en fuite dans un autre pays membre par l'exécution d'un mandat émis à son encontre. Près de 10 ans après sa création, APA entend ainsi unifier les mécanismes des poursuites judiciaires en Afrique.
Jeff Ngoy sur Radio Okapi. Revenons un instant sur les attaques des religieuses et prêtres survenues à Lodja dans le Sankuru, voici quelques jours. À ce propos, le porte-parole du gouvernement congolais traîne en justice le député national Franck Diongo pour dénonciation calomnieuse. Dans sa
sa plainte déposée le week-end dernier auprès du procureur général de la République à Kinshasa. Lambert Mende Omalanga accuse l'élu de la Lukunga de lui avoir imputé ces incidents par le trichement des militants de son parti politique, la CCU. Franck Diongo, qui ne nie pas avoir cité Lambert Mende Omalanga, parlait d'une plainte de la honte. Il s'est confié à Innocent Olenga.
Monsieur Mende, qui est l'auteur moral, le commanditaire de ces atrocités, à répétition donc, Monsieur Mende, qui règle des comptes aux non-originaires par une opération ethnique, a déposé une plainte contre ma personne au bureau du PGR, de sorte que les immunités soient levées pour que je puisse comparaître à la Cour suprême. C'est une fuite en avant, une plainte de la honte. Monsieur Mende se sert, en apparence, comme quelqu'un qui veut servir Monsieur Kabila. En arrière-pensée, il y tire les ficelles pour des intérêts personnels. Est-ce que Monsieur Kabila a dit à Monsieur Mende d'aller tabasser les religieuses, aller casser les jambes d'un prêtre? Ceci dit, je prends acte. Je suis un résistant. Je défendrai les droits de l'homme et la vérité jusqu'à la victoire. Je dénoncerai les mal et les atrocités jusqu'à ce que cela soit arrêté.
J'ajoute que le porte-parole du gouvernement déclare que lorsqu'une affaire est en justice, elle ne se règle pas dans les médias. Lambert Mende Omalanga parle d'une agitation. Merci de nous écouter à Mutuanga et à Tchengerero. Il est 8h06. C'est le moment d'aller maintenant au Nord Kivu. L'activisme des rebelles ougandais de l'ADF dans la région de Beni, la question des FDLR et celle des ex-M23 qui opèrent à la frontière ont été au centre de préoccupations soumises mercredi après-midi par la société civile du Nord Kivu à l'envoyé spécial Saïd Djinit. Les deux parties ont aussi passé en revue les défis qui restent à relever dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Bien plus, le président de la société civile du Nord Kivu note un certain immobilisme de la brigade d'intervention de la MONUSCO sur le terrain par rapport à son mandat. Thomas Dakemwiti est joint par Sifa Maguru.
Ce qui se passe à Beni, ça fait plus de 2 mois que les opérations ont été suspendues. On ne sait pas pourquoi. Et la FID et le FRDC ont suspendu les opérations alors qu'ils étaient face à des terroristes. Vous savez, dans la résolution 2098, il est dit que la FID peut agir avec ou sans les FRDC. Nous lui avons rappelé ça et nous pensons que c'est tombé dans des oreilles attentives. Nous lui avons parlé des défis au niveau des frontières avec les questions de ces groupes armés qui sont cantonnés de part et d'autre des frontières. Les ADF sont des Ougandais, les FDLR sont des Rwandais, les éléments du M23 qui sont de l'autre côté. Donc nous lui avons parlé de tout ce qui est défi de la justice, défi sécuritaire, défi du fonctionnement même de la FID, défi de tous les engagements, mais aussi le mécanisme national de suivi.
Autre fait de l'actualité sur Radio Okapi, le déficit énergétique constaté ce jour-ci à Kinshasa et dans plusieurs villes de la RDC a fait l'objet d'un long débat ce mercredi à l'Assemblée nationale. C'est suite à la question orale du député national Clément Kankou. En réaction, Eric Mbala, le numéro 1 de la SNEL, parle de la croissance démographique et du boom immobilier. Faux, rétorque plusieurs députés nationaux qui fustigent une faiblesse managériale. Le reportage de Mimi Ngouma Moulongo.
Le déficit dans la desserte de l'électricité en RDC a été reconnu par tous ce mercredi, députés comme administrateurs de la SNEL. La divergence est intervenue plutôt au niveau de la responsabilité. Un des intervenants, le député Papi Nyango, n'a pas hésité à charger les gestionnaires de la SNEL.
Ce que la DG devait dire, que la SNEL est minée par de faibles capacités managériales de ses dirigeants, y compris de lui-même.
De son côté, Clément Kankou, initiateur de la question orale, s'est plutôt attardé sur l'implication du gouvernement.
Est-ce qu'il y a un problème de financement? Est-ce que le gouvernement ne prend pas au sérieux ce qui se passe aujourd'hui? Il faut qu'il vienne nous le dire.
Face à ces accusations, la DG de la SNEL parle notamment du vieillissement et de la quantité réduite du matériel face au boom immobilier et à la croissance démographique. Mais Eric Mbala a tenu à rassurer parlant du plan mis en place.
La première phase, c'est réhabiliter l'existant et en même temps renforcer les capacités des lignes de transport ainsi que de réseaux de distribution. SNEL a levé l'option d'installer des compteurs à prépaiement pour éviter la facturation forfaitaire et amener la population à l'économie de l'énergie.
Pour y arriver justement, Eric Mbala a appelé à la mobilisation de ressources financières, ce qui permettra à la SNEL de faire face à tous ses multiples besoins.
Et pour terminer, sachez qu'une délégation conjointe, gouvernement congolais et la Banque mondiale, a initié une mission d'appui à la mise en œuvre du projet PARSA à Kinshasa. C'est pour passer en revue les activités par composante de tous les travaux exécutés par cette institution financière internationale. Alors que c'est terminé hier à Kinshasa cette mission, le secrétaire général à l'agriculture s'est déclaré confiant quant à l'exécution de ces travaux dont le coût global du projet est de 120 millions de dollars américains. Ali Ramazani s'exprime au micro de Nadine Foulansimba.
Nous avons une nette conviction que les choses vont dans la bonne direction. On se rappellera que dans la province de l'Équateur, c'est dans les années où nous avons commencé à mettre en place les tout premiers projets de développement agricole, il n'y avait pas de route. Il n'y avait pas des entrepôts. Aujourd'hui, nous avons, avec les trois composantes, l'amélioration de la production végétale et animale pour que le secteur agricole dans cette partie du pays, qui est un des greniers du pays, soit vraiment opérationnel.
Quelles recommandations vous pouvez faire par rapport à ce projet?
La recommandation, c'est que ce n'est pas toujours facile de réhabiliter des routes et puis qu'il n'y ait pas d'entretien. Nous devons maintenant programmer qu'après le projet, la Banque mondiale est venue à l'appui. Il ne faut pas que du jour au lendemain, nous revenons comme à la case départ et attendre encore qu'il y ait des moyens de financement extérieur pour venir relancer encore la province.
Ainsi se termine cette édition de vos nouvelles. Merci d'avoir écouté.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.